Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses, en paraboles. Et dans son enseignement, il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin, les oiseaux sont venus, ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé. Et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans des ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. » Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder, de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur qui sème la parole. Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution, à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur Jésus. Bénissons le Seigneur. La parole de Dieu est toujours nouvelle. Elle n'est jamais vieille. On peut prêcher sur cet évangile, on peut le lire, le méditer. Il y a toujours quelque chose de neuf. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle pénètre toujours au plus profond de notre cœur. Elle nous fait du bien. Elle est une bonne nouvelle. Elle nous réconforte, elle nous fortifie. Voyez, mes amis, combien il faut lire et méditer la parole de Dieu. C'est très important, parce que dans la mesure où nous la méditons, eh bien, Dieu nous construit une demeure éternelle. C'est ce qu'il dit dans le Nouveau Testament. Chaque fois que nous accomplissons la parole de Dieu, chaque fois que nous l'écoutons, nous l'accueillons, nous la mettons en pratique, comme dira l'apôtre Saint Jacques, eh bien, nous ajoutons une petite brique, hein, dans notre demeure du ciel. C'est-à-dire, nous investissons pour la vie éternelle, bien sûr, parce que cette parole nous transforme. Elle fait de nous des fils et des filles de Dieu. Quand on n'écoute pas la parole, eh bien, on est comme ces gens. On n'en voit rien, on n'entend rien, on ne comprend rien. Eh bien, on se contentera de la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu, ben, c'est-à-dire ce que Dieu permet. Avec à l'un, c'est ceci, à l'autre, c'est cela, à l'autre, c'est un accident, à l'autre, c'est quelque chose. Ben voilà, on est en dehors de Dieu. Donc Dieu permet tout un tas de choses dans notre vie qu'on ne comprend pas et on ne voit rien parce que la parole n'illumine pas notre cœur. Par contre, quand on est dans cette pratique de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous illumine et on a envie de rentrer dans la volonté voulue de Dieu. Dans la volonté voulue de Dieu, peut-être d'une manière résignée, ou peut-être en se conformant à la volonté de Dieu dans les combats et les difficultés, ou encore mieux, peut-être en s'abandonnant, ou alors en étant uni à la volonté de Dieu. Plus encore, bien sûr, le dernier stade, c'est d'opérer dans la divine volonté en l'accueillant en nous, comme la volonté même de Dieu. Mais enfin, bon, revenons à la parole, c'est important, voyez. Cette parole, c'est une semence, donc c'est une petite chose. Comme ce petit enfant qui est là, vous voyez, cette petite. C'est tout petit, mais c'est appelé à grandir. Il est né, il a pris vie dans le sein de sa mère. Et après, il a grandi dans le sein de sa mère pendant 9 mois, de sa maman. Et ensuite, il est né. Et maintenant, il va continuer à grandir. Mais la semence, c'est ça, vous voyez. La semence, c'est la vie même de Dieu. C'est la vie de Dieu qui nous est donnée. Et quand il est accueilli avec amour, cet enfant, s'il n'avait pas été accueilli avec amour, eh bien, l'homme avec sa mauvaise volonté aurait pu même ne pas lui permettre d'exister, de vivre. C'est affreux, comme il y en a beaucoup aujourd'hui. Pourquoi il a eu la vie? Eh bien, parce que sa maman et son papa ont été heureux, l'ont désiré, ont attendu cet enfant. Ils l'ont fait, il a fait leur joie. Donc, il a trouvé un lieu pour se développer, pour vivre. Il a trouvé la vie même, voyez, et il existe et elle va grandir et devenir une grande jeune fille, une dame. Voilà, donc la parole de Dieu est quelque chose de petit, une petite semence, mais elle grandit nuit et jour. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut accueillir tout ce qui sort de la bouche de Dieu. On devrait, nous les hommes, mais comme on a été tellement blessés par le péché, comme le dit le catéchisme, pour comprendre les conséquences du péché, ce qu'est le péché, dit le catéchisme, il faut comprendre l'unité tellement grande que l'homme avait avec Dieu. Vous voyez, l'unité avec Dieu est tellement grande, était tellement grande, voilà que le péché a tout déchiré et nous a mis encore, comme dit le catéchisme, dans un état dramatique. Donc, on ne comprend plus rien. Donc, cette parole nous est donnée pour nous refaire. Donc il faut accueillir tout ce qui sort de la bouche de Dieu. L'Écriture, bien sûr, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la parole des saints, il faut lire les saints, la vie des saints, les écrits des mystiques, il faut lire tout ça, on devrait être avide de ces choses-là pour guérir et pour retrouver notre vraie identité de fils et de fille de Dieu et avoir une belle maison préparée du luxe au ciel. D'accord ? Oui, mais ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la parole, au lieu de tomber dans la bonne terre, eh bien, elle tombe ailleurs. Et alors, le mystère du royaume de Dieu, c'est ce dont je vous parle, le mystère du royaume de Dieu ne nous est pas dévoilé. Et on marche sur terre comme des zombies. On ne voit rien, on ne comprend rien, on prend des coups, on ne sait pas pourquoi, on se plaint, les prières ne marchent pas. Et on continue à prier et ça ne marche pas. Alors on finit par aller à l'église en traînant la savate. On communie, on est à peine en état de grâce. On désire même pas l'Eucharistie. À peine on a communié, on revient à sa place, on est distrait ou on pense à autre chose. On ne peut pas dire qu'on a une vie de prière à la maison. Voyez. Et on passe toute la vie dans une espèce de médiocrité. En fait, on n'est pas du tout heureux avec Dieu. Dieu est là, on ne sait pas où d'ailleurs. Il nous embête plutôt qu'autre chose, il ne fait pas les choses qu'on voudrait, il n'écoute rien de ce que veulent nos caprices humains. Donc en fait, on est à côté de la plaque, c'est la totale quoi. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est comme ça évidemment, comme on n'est pas dans la volonté de Dieu, on est dans la volonté permissive, donc on ne comprend rien et voilà, c'est ça. Bon, c'est comme ça. Hein, les choses arrivent et puis voilà, on les prend comme ça. Évidemment, parce qu'on n'a pas compris le mystère du royaume de Dieu. Alors là, il y a 3 obstacles. La parole est donnée. Il y en a 1, Satan. 2, c'est la détresse et les persécutions. Et 3, c'est les soucis du monde et les séductions de la richesse. Vous voyez ? Là, Jésus, il précise, il nous donne 3 ennemis. Bon, mais le premier, c'est Satan. Satan enlève la parole aussitôt pour que surtout tu ne la médites pas, tu ne la gardes pas, et encore moins tu la mettes en pratique. Ennemi numéro 1, c'est intéressant, hein. Le deuxième ennemi, Le deuxième problème que nous avons avec la parole, ce sont les détresses ou la persécution. Alors là, ça marche bien, on est content. Tant que tout va bien, on loue Dieu. Vous savez, ce sont les gens qui louent Dieu quand tout va bien. Hein? C'est pas ça. Hein? Le livre de Job, au chapitre 1, dit, dit que, oui, que nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, et pourquoi pas le malheur. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, je retournerai dans le ventre de ma mère. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, pourquoi pas le malheur, hein, dit le livre de Job, voyez. Et oui, tout est grâce. Quand on est dans la parole de Dieu, illuminé par la parole de Dieu, et qu'on est entré dans le royaume de Dieu, dans les mystères du royaume de Dieu, en fait, tout est grâce. C'est ce que dit la petite Thérèse, non? Elle dit tout est grâce, voyez, hein, c'est formidable. On est vainqueur. En tout, dit l'apôtre Paul, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ. Hein? Nous sommes plus que vainqueurs. Il dit quelque chose comme ça, c'est très très beau. Alors voilà, donc trois ennemis. Satan, la détresse et les persécutions. Tout va bien, je loue Dieu. Tout va mal, je suis déprimé. Voyez, il faut ça. Il faut passer par ça. Voyez, moi aussi, hein, moi je me souviens, mais je louais Dieu quand tout allait bien. Souvent, je loue Dieu quand tout va bien. Quand ça va mal, ça me coûte plus de travail. Voyez, mais je m'efforce. Hein. Ah ben oui, ah ben oui. Hein, il ne faut pas se laisser. On est pris dans les émotions, on a les idées qui se bousculent négatives les unes après les autres. On a envie de jeter le bébé et l'eau du bain. Hein? Pas jusque-là quand même. Mais enfin, bon, hein, on en a marre, vous voyez, c'est ça. Et puis là, on te dit, allez, loue le Seigneur, Jésus t'aime. Eh bien oui, il faut y aller, il faut y aller, il faut louer le Seigneur. Et ça revient, il nous donne la grâce, parce que le Seigneur nous met à l'épreuve. Il a besoin de voir si vraiment on l'aime. Vous comprenez? C'est facile de dire au bon Dieu, je t'aime quand tout va bien, quand on est riche, quand on a la santé, hein? Mais quand on est pauvre, quand on n'a pas un sou et quand on est malade, hein? Est-ce qu'on est content? Voyez? Eh oui, c'est ça. Et pourtant, qu'est-ce qui nous fait du bien? D'être riche en pleine santé, hein? Et d'avoir tout ce que nous voulons? Ou d'être malade, pauvre et de ne pas avoir ce que nous voulons? Qu'est-ce qui nous fait du bien? J'en sais rien, moi. Eh! Qu'est-ce qui va me faire gagner le ciel? Là, tu sais, hein? Qu'est-ce que tu préfères, être pauvre et malade et gagner le ciel pour l'éternité, ou être pleine de sous, contente et avoir tout ce que tu veux, et après passer une éternité au purgatoire? Hein? Hey, attention, faut réfléchir. Faut réfléchir, voyez? On n'a pas compris les choses du royaume de Dieu. Jésus, finalement, le pauvre, lui, il n'a pas eu ce qu'il voulait. La Bible nous dit que lui, qu'il a renoncé au rang qu'il égalait à Dieu, et au lieu de choisir je ne sais pas quoi qui lui était promis, il a préféré la souffrance et toutes les persécutions, dit la Bible. Il n'a pas choisi ce qu'il voulait. Vous êtes d'accord? Est-ce que Jésus est vraiment notre modèle de vie chrétienne? Oui ou non? Non? Oui, c'est quand même le modèle de vie chrétienne. Alors si lui, il a dit, oh croix désirée, oh croix comme je te désire, oh croix enfin je peux t'embrasser. Si lui, il a embrassé la croix, moi qui me dis chrétien, pourquoi je ne vais pas aimer la croix? Ça serait quand même curieux, ça. Alors lui, c'est le chef, c'est la tête. Il vient ici, il nous donne la parole et il nous dit que celui qui ne prend pas sa croix tous les jours ne peut pas être mon disciple. Alors lui, il aime la croix, il embrasse la croix pour nous parce qu'il nous aime comme Dieu, évidemment. Et moi, alors, je me dis chrétien, mais dès qu'il y a une croix, je me mets à pleurnicher et je ne suis pas content. Est-ce que je suis vraiment chrétien? Vous voyez? Je ne sais pas. Bon. Alors, je vous dis qu'il faut tout accueillir comme venant de Dieu. Ces choses dont je vous parle valent évidemment pour tout ce qui est de la rédemption, et c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Mais alors beaucoup plus quand on parle de la divine volonté. Maintenant que nous avons cette parole, ce mystère que Dieu nous révèle, qu'on peut vivre dans sa divine volonté, il faut faire la même chose. Il faut l'écouter. Il faut l'apprécier, il faut croire, dit Jésus, il faut l'écouter, croire, l'apprécier et vraiment demander au Seigneur, mais Seigneur, maintenant je veux que cette divine volonté vienne opérer en moi, régner en moi. Et alors là, ce sont tous les biens de Dieu. Là, on rentre dans une nouvelle forme de vie. On voyait ça hier, on ne fait plus la volonté de Dieu comme un serviteur. La divine volonté devient opérante et régnante en nous. Donc, on règne. Jésus le dit. Faire ma volonté, c'est être serviteur et recevoir des mérites et un petit salaire, hein, à la fin, qu'on a gagné. Par contre, accueillir ma divine volonté, entrer dans ma divine volonté, c'est régner, c'est posséder. Là, on règne et on possède tout ce que Dieu a. Donc là, il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus de soucis. Plus vous allez grandir, on va grandir dans ça, ben, qu'on soit bien portant, qu'on soit malade, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit ici, qu'on soit là-bas. Peu à peu, finalement, on vit tellement dans la divine volonté que nous avons les arts et nous vivons comme une antichambre du ciel déjà sur la terre. C'est ce que Jésus dit au Notre Père. C'est fou, ça. Voyez, le règne de Dieu vient vraiment en nous. C'est extraordinaire. Voyez, quand on dit ces choses, les gens disent, mais attends, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre si on est là sur la terre? Regardez notre vie. Regardez comme il faut chauffer cette église parce qu'on se caille dès qu'on arrive dedans. Voyez? Eh oui, est-ce que c'est normal ça? On devrait être bien, on devrait avoir chaud, on devrait ni avoir ni trop chaud, ni trop froid. Le corps devrait être réglé automatiquement pour rebalancer la température, voyez, pour être toujours au top partout où on va. Et tu vas sortir, tu vas glisser sur une peau de banane. On n'est pas fait pour ça. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est fait pour régner. Mais on a perdu ce règne. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il vient, le pauvre, il va s'emprisonner dans le sein de la Vierge Marie pendant 9 mois. Après, il va naître, il va souffrir tout ce qu'on a pu souffrir jusqu'à la croix, l'agonie, la croix et tout ça. Il va nous donner une parole pour dire, les enfants, revenez au rang, au but, à la finalité pour laquelle vous avez été appelés. Je veux que vous régniez avec moi. Moi, je suis un roi, mais je n'ai pas de sujet. Je suis un roi qui est tout seul. Ça y est. J'ai la résurrection et je suis à la droite du Père, mais maintenant je veux des sujets. Et vous voyez, tant qu'on est dans la rédemption, à seulement faire la parole de Dieu, à s'efforcer pour avoir des mérites, on est encore des pauvres. Vous voyez, là, on est au début, là, on est au début. Hein, et il veut nous expliquer les mystères du royaume de Dieu. On est toujours des pauvres, même si Jésus est riche, on reçoit des petites grâces, on avance, un peu plus de sainteté, un peu moins de sainteté. Ça va, ici il m'a guéri, là ça va mieux, enfin on a du monde à la messe, ce jeune a donné sa vie à Jésus, ça va, des petites victoires. On ne peut pas dire que ça soit encore le top. Vous voyez, on est toujours pauvre. Ce que Dieu veut, ce que Jésus veut, c'est être un roi avec des rois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle dans le livre de l'Apocalypse le roi des rois. Eh oui, le roi des rois. Vous voyez, il veut qu'on... Tant qu'on ne sera pas tous rois et que nous ne régnerons pas tous avec Jésus dans cette maison qu'il nous bâtit, on revient à la première lecture, dans cette maison qu'il nous bâtit, c'est moi qui te bâtirai une maison, en vain travaillent les maçons si le Seigneur ne construit pas la maison, eh bien, tant qu'on n'est pas tous dans cette maison du Père, un avec le Père et le Fils, qu'il soit un, transformé par la parole, transformé par cette puissance de la divine volonté qui règne en nous, tant qu'on ne règne pas sur tout, eh bien, on n'est pas vraiment heureux et on n'est pas vraiment dans la maison de Dieu, d'accord? Vous voyez la petite semence de la parole, tout ce qu'elle nous enseigne? Donc, il faut vraiment demander aujourd'hui, encore une fois, que vienne ta divine volonté. Je te donne ma volonté, je prends la tienne comme source de vie, source de lumière. Je veux agir avec toi, par toi, en toi. Je veux vivre par toi, je veux tout faire avec toi. Vous voyez, on parle souvent de ces choses-là. Eh bien, il faut le faire. Ça ne sert à rien. Il faut accueillir cette parole. Vous voyez, il faut accueillir la parole de Dieu. Mais demandons au Seigneur cette grâce. Demandons à travers cette Eucharistie que notre cœur devienne une bonne terre. Une bonne terre, là, bien riche, bien féconde. Hein, comment? Eh bien, par l'humilité, la foi, et dire, bon, j'ai essayé de construire une maison, j'y suis pas arrivé, maintenant je préfère prendre le raccourci, que vienne ta divine volonté, qu'elle soit en moi, qu'elle règne, qu'elle opère, je fais tout avec toi, tout ce que je fais, même les moindres battements de mon cœur, la circulation de mon sang, même l'air que je respire, je veux que tout ce qui sort de moi, tout ce que je peux faire intérieurement, extérieurement, je veux être tes pieds, je veux être tes mains, je veux être tes yeux, je veux être ta langue, je veux être tout. J'accepte tout, je choisis tout, je veux que toi et moi nous ne fassions plus qu'un, qu'il n'y ait plus deux volontés, une et l'autre qui s'opposent, une qui résiste, une qui essaye, ça c'est pas possible, je ne fais pas le bien que je veux mais le mal que je ne veux pas, je veux qu'il n'y ait plus qu'une seule volonté, la tienne.
Il suffit de dire oui, dit Jésus, et le tour est joué. Amen.